Donc on va commencer par réciter le refuge. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors, on va faire un petit temps de méditation pour commencer. Donc, je vais rappeler les points pour la méditation de Shiné. Donc, au niveau du corps, l'essentiel de la posture, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, on imagine qu'on pousse le plafond avec le sommet de la tête, en rentrant légèrement le menton. Il ne doit pas y avoir de tension dans le dos. Il y a une tonicité, mais ça ne nécessite pas un effort au niveau des lombaires. Donc, on doit trouver quelque part la bonne cambrure, de façon à ce que... on sente que lorsque c'est correctement empilé, quand on trouve le bon axe, la colonne vertébrale tient toute seule. Pas de tension dans le dos. On peut laisser faire la gravité et laisser se détendre tous les muscles du corps autour de la colonne vertébrale, les épaules, les muscles du visage, de la nuque, les bras, les doigts. Les mains sont posées sur les genoux ou dans le mudra de la méditation. Le regard est ouvert ou entrouvert, posé à l'oblique devant soi. Idéalement, on garde les yeux ouverts dans cet exercice pour rester en contact avec tout ce qui nous entoure. Le regard est naturel, sans tension, détendu. On prend quelques minutes pour faire un petit scanner corporel et détendre éventuellement les zones de tension. Quand on est confortable dans son assise, on porte notre attention sur le moment présent et on s'installe dans le moment présent. On laisse tomber toutes les pensées relatives au passé ou au futur pour simplement se porter sur l'instant présent. Sur ce qui se présente à nos sens. La méditation consiste simplement à être conscient. On ne fait rien de particulier. On ne recherche pas une expérience particulière. On ne cherche pas à faire le vide ou à ne plus avoir de pensée. On continue d'avoir des pensées, on continue d'avoir des sensations, des perceptions. On continue d'être pleinement conscient et en même temps on s'autorise à se détendre, à laisser venir ce qui vient, à laisser partir ce qui part. On laisse les phénomènes aller et venir sans chercher à corriger quoi que ce soit, sans chercher à améliorer quelque chose, attendre quelque chose. On laisse les choses être, on se contente d'être, sans exiger quoi que ce soit de nous-mêmes. On s'autorise simplement à être présent, en vacances de préoccupations. Une instruction qui dit qu'on devrait être en méditation comme quelqu'un qui a une journée bien remplie, qui a accompli tout ce qu'il avait à accomplir et qui peut enfin rentrer chez lui, s'asseoir dans son fauteuil et laisser tomber toute préoccupation. Donc ce soir on va terminer sur le karma et puis le mois prochain en fait ça sera pas vraiment, enfin ce sera pas vraiment un enseignement, ce sera un petit temps de méditation suivi de on va dire une sorte de buffet. Voilà, ça se veut un peu festif dans les chilling, voilà, on Pour clore l'année, bah, c'est l'occasion, chacun ramène ce qu'il a envie, soit quelque chose à manger, soit quelque chose à boire. Et puis, donc, on fait un petit temps de méditation, éventuellement un petit temps pour les questions-réponses, s'il y a des gens qui veulent revenir sur ce qu'on a dit au cours de l'année. Et puis après, bah, voilà, on finit avec les festivités. Alors, avant de partir sur karma, donc, on va. Peut-être prendre un moment pour parler de la précieuse existence humaine. Voilà, pour donc qui est une des quatre idées fondamentales. Quatre idées fondamentales, ça vous dit quelque chose? Il y a quelqu'un qui vient d'arriver?
Non, c'est la lumière.
Ah d'accord.
C'est la lumière. Elle est à droite. Là. Non, non, c'est la lumière. Philippe là-bas. Oui. Ouais, très bien.
Merci.
Merci.
J'avais fermé la porte. Oui, t'as bien fait, t'as bien.
Les quatre idées fondamentales. Quelqu'un. Parce que c'est quand même fondamental.
Précieuse existence humaine.
Ouais, précieuse existence humaine.
L'impermanence.
L'impermanence.
J'ai cru.
Le karma.
L'acuité.
Et la dernière? Non.
La défectuosité du samsara.
La défectuosité du samsara. Si la vacuité, c'est fondamental, mais quel est le rôle des quatre idées fondamentales?
Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois?
Pourquoi pourquoi on commence par ça? Pourquoi dans les enseignements ou avant les pratiques, pourquoi on. Il y a toujours une partie où on met l'esprit en condition. En quelles conditions on le met? Pourquoi on développe ces quatre idées?
Pour qu'elles soient présentes à l'esprit.
Ouais. Pour développer le
renoncement.
Le renoncement. Le renoncement à quoi?
Au samsara.
Au samsara. Samsara, donc en fait, c'est le fait de. Pourquoi on développait ces quatre idées fondamentales? C'est parce qu'avant de pouvoir orienter. C'est l'idée, c'est de pouvoir orienter notre esprit pour recevoir le dharma, qu'on soit réceptif à ça. Et pour qu'on soit réceptif à ça, il faut qu'on développe le renoncement. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le renoncement samsara, c'est un peu, comme la Matsultrim dit, le fait d'en avoir marre, d'en avoir marre. Vous voyez, on a tous envie d'être heureux, on a tous vraiment envie d'être, pas heureux, mais super heureux, et puis tous autant que nous sommes, et puis on a essayé avec plein de choses, depuis l'aube des temps, on essaye avec le plaisir, on essaye avec le pouvoir, on essaye avec l'argent, enfin voilà, on met en place plein de stratégies, et puis on y met toute notre intelligence, notre bonne volonté, etc., et puis bah, malgré tout, on est encore en train de tourner autour du pot. Parce que, quelque part, même si on trouve des satisfactions à droite, à gauche, par-ci, par-là, bah, force est de constater qu'on ne peut pas totalement, on n'est pas totalement comblé, satisfait. Y a toujours quelque chose, voilà, pourvu que ça dure, pourvu qu'il n'arrive rien, mais on sent qu'on est toujours sur la brèche, quoi, sur le fil du rasoir. Et dans le dharma, c'est ça la base. Enfin, quelque part, c'est que c'est pour ça qu'on va aller se tourner peut-être vers une voie de développement spirituel, développement personnel ou spiritualité, parce que voilà, on a envie d'aller plus loin que ça. Et c'est la base. Et ce que le Bouddha va nous enseigner, c'est que si on souffre. Déjà, il va parler de la souffrance, il va vraiment mettre l'accent, et il va dire, bah, c'est déjà bien de reconnaître qu'on souffre, d'admettre qu'il y a dukkha, d'admettre que, bah, quelle que soit notre situation sociale, quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, quelles que soient les époques, etc., bah, il y a toujours cette contrariété. Dukkha au sens, pas forcément grosse souffrance, ça en fait partie, mais toutes les insatisfactions qu'on rencontre, jour après jour, même au cours d'une journée, des petites contrariétés par-ci, des petites contrariétés, et puis ensuite des grosses contrariétés. Et le Bouddha va nous enseigner que, bah oui, il y a dukkha. Et il n'y a pas lieu de, comment dire, de se complexer par rapport à ça. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour les pauvres, c'est pareil pour les riches, c'est pareil pour les grands, c'est pareil pour les petits, c'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour les humains. Tant qu'on est dans le samsara, il y a dukkha. Ah, samsara. Parce qu'en fait, la cause de dukkha, ce n'est pas le fait que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Ce n'est pas le fait que le monde soit comme ci, que le monde soit bien, que le monde soit mal. C'est, en fait, quelque part, le monde, il est ce qu'il est. Il est impermanent, il est transitoire, des causes et des conditions. Mais la racine de la souffrance ne vient pas tant des choses, du monde, etc. Elle vient de notre façon de vivre les choses, de notre façon de réagir aux choses, de la confusion, du fait qu'on ne voit pas clairement comment sont les choses, qu'on a beaucoup de malentendus par rapport à ce qu'on est, par rapport aux choses, et c'est de ça que vient la souffrance. Et ce malentendu, cette ignorance, c'est ça que le Bouddha appelle le samsara. Le samsara, c'est un fonctionnement. Un fonctionnement qui est souché sur l'ignorance fondamentale. On ignore comment sont les choses, on ne les voit pas clairement, on les voit de manière distordue. Et donc du coup, on agit en fonction de cette confusion. Et comme on agit en fonction de cette confusion, bah, on perpétue la confusion à travers nos faits, à travers nos gestes, à travers nos paroles, etc. Et du coup, on tourne autour du bonheur sans jamais le trouver. Sans jamais comment dire, trouver un bonheur qui soit au sens... un bonheur libre des circonstances. C'est toujours, comme dit, voilà, des petits bonheurs par-ci, des petits bonheurs par-là, mais c'est jamais la paix de l'esprit. Et le Bouddha dit, bah, en fait, c'est pas... oui, il y a dukkha, mais c'est pas une fatalité. Parce que dukkha a une cause. Cette cause, c'est l'ignorance. Et donc, s'il y a une cause, bah, on va pouvoir travailler sur la cause. On va pouvoir travailler sur... l'ignorance. Et la cause de la souffrance, bah, c'est le karma. Le karma, c'est l'action. Donc ça, on l'a vu, hein. On a parlé de... On traduit le mot karma au sens action. Mais on va parler de karma vertueux et puis de karma non vertueux. Parce que il y a des karmas, en fait, qui perpétuent l'illusion, qui perpétuent la confusion. Et on va parler de karma négatif au sens, c'est pas vertueux à l'éveil. Ça nous éloigne de l'éveil. C'est pas au sens, c'est mal ou c'est bien. C'est pas au sens mal en absolu ou bien en absolu. On va parler de karma positif ou négatif, mais au sens vertueux à l'éveil, parce que ça me rapproche de l'éveil. C'est tous les actes, en fait qui vont contribuer à diminuer l'illusion dans laquelle je vis, mais au contraire, apporter plus de lucidité, plus de clarté pour moi et pour les autres. Et puis karma non vertueux, bah, c'est tout ce qui fait que, en fait, croyant chercher le bonheur, bah, je trouve toujours le contraire et je tourne le dos à l'éveil. Et je ne fais que accroître la confusion encore et encore. Et on avait parlé donc des 10 actes vertueux et 10 actes non vertueux. Vous vous en rappelez des 10 actes non vertueux ? Allez, révision. Toujours, alors je me souviens que la séance, on avait parlé, j'avais vraiment insisté sur le fait qu'il ne fallait pas prendre ça de manière dogmatique, au sens des actes noirs, au sens... mais vraiment, qu'est-ce qui, dans ces actes-là, en fait, on voit que c'est l'illusion qui est à l'œuvre, et donc ça nous éloigne de l'éveil. Donc il y avait 3 actes non vertueux du corps, 4 de la parole et 3 de l'esprit. 3 du corps.
Ne pas tuer.
Ne pas voler.
Alors tuer, du coup, parce qu'on parle des actes négatifs, donc c'est tuer. Tuer. Voler. Et l'inconduite sexuelle. Ensuite, on avait parlé de 4 actes de la parole.
Mentir. Dire des calomnies.
Comment ?
Calomnier.
Calomnie. Les
paroles futiles.
Ouais, c'est ça.
Paroles agressives. Paroles agressives.
Et oui, des paroles malveillantes. Et enfin, 3 de l'esprit. 3 actes négatifs de l'esprit.
Vues erronées.
Ouais, des vues erronées. les pensées malveillantes et les pensées de convoitise. C'est-à-dire envier le bonheur de l'autre, vouloir s'accaparer le bonheur de l'autre. Donc toujours ces actes négatifs, ils sont à voir, l'action elle commence dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est mentir avec l'intention de nuire aux autres. On avait vu qu'en fait, l'intention est tellement primordiale au niveau karmique que, en fait, mentir pour protéger l'autre devient un acte positif. Même si en apparence, c'est considéré comme noir, en fait, si l'intention est blanche, bah, du coup, ça devient un acte positif. On assume de mentir pour protéger l'autre. Ouais, donc c'était, on avait vu que c'était l'intention qui primait, qui donnait la couleur de l'acte. Qu'est-ce qui définit qu'un acte est positif ou négatif ? L'intention qui sous-tend l'acte. Et on avait parlé de quatre moments de l'intention. Je suis à fond dans les révisions là. Quatre moments de l'intention, vous vous en souvenez ? Quatre moments de l'action, pardon. Les quatre moments de l'action. Le premier,
l'intention.
Le deuxième,
la mise en œuvre.
Le troisième,
la réalisation.
Et enfin, le quatrième,
la satisfaction
ou pas. Voilà. Et en fait, ce qui pèse lourd dans la balance, c'est le premier et le dernier moment, l'intention et le fait qu'il y ait satisfaction ou pas. C'est-à-dire qu'une action qui est faite, comment dire, accidentellement ou fortuitement, finalement n'a pas de poids. Karmiquement, bien sûr, ça a des conséquences. Je vous ai parlé du fait que si, par exemple, je renverse un chat en rentrant en voiture et que je n'ai pas l'intention de le renverser parce que voilà, il se jette sous mes roues et puis en plus, il n'y a pas de satisfaction derrière. Cet acte a des conséquences, clairement, mais pas au niveau karmique. Enfin, en tout cas, un poids très négligeable au niveau de karmique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va répercuter sur mon esprit en termes de bonheur ou de malheur. Ça sera négligeable, parce qu'il n'y avait pas l'intention et la satisfaction derrière. Même peut y avoir le regret, qui en plus, je serais planté plus de vigilance ou des choses comme ça, quoi. Donc voilà, donc le karma, en fait, est la racine de la souffrance. Alors le karma non vertueux, c'est-à-dire qu'il y a une illusion dans l'esprit. Donc là je vais rentrer un peu plus loin, parce qu'il y a une définition qui met toutes les écoles du bouddhisme d'accord sur le karma. C'est karma, acte vertueux, résultat bonheur, sukha. Enfin voilà. Acte non vertueux, résultat dukkha. Alors ensuite on va plus loin. Qu'est-ce qu'un acte vertueux ? Intention vertueuse. Qu'est-ce qu'un acte non vertueux ? Une intention non vertueuse. Oui, mais alors c'est quoi une intention vertueuse, non vertueuse ? Grosso modo, pour démarrer, on va nous dire, et c'est très bien, en fait, tout ce qui vise à satisfaire les intérêts égocentriques, c'est ça la conclusion. C'est ça justement qui va entraîner un karma non vertueux. Tout ce qui, au contraire, va être motivé par l'altruisme, quelque part, va être karma vertueux. Pas mal pour commencer, puis on a largement à faire. Et puis, je me souviens, on avait parlé un peu du Christ qui disait... ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Quelque part, c'est pas mal. C'est déjà énorme de pouvoir ne serait-ce qu'appliquer ça. Et l'éthique bouddhiste, on va dire, j'aime pas dire au niveau basique, mais oui, d'une certaine manière, on peut le comprendre comme ça. C'est voilà, le référentiel, c'est moi. Je ne vais pas faire aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Mais en même temps, on a vu que ça reste quelque chose qui est limité par notre propre conception. Vous voyez, le référentiel, c'est moi. Voilà. Et puis, je vous avais raconté, je ne sais pas si ça vous fait cogiter, mais imaginons que, voilà, on pousse un peu le bouchon plus loin. Je suis envoyé sur Mars, là où il y a des martiens, voilà, dans une fiction, hein, où voilà, dans un futur, on est envoyé sur Mars, qui est habité par des Martiens, et puis les Martiens, bah, en fait, ils ont la coutume, pour se dire bonjour, pour se témoigner de l'affection, de la proximité, de se donner des grandes baffes. Voilà. C'est leur coutume, c'est leur truc à eux, c'est vraiment comme ça qu'on se témoigne, la franche camaraderie. Et bon, bah moi, j'aime pas qu'on me... Mais eux, ils aiment bien, alors qu'est-ce que je fais?
Le réflexe.
Est-ce que je leur... Vous voyez, à un moment donné, donc ça pose, la question va se poser. Voilà, je veux pas qu'on fasse... je veux pas faire ce que je veux pas qu'on fasse. Mais en même temps, eux, ils aiment. Alors, je le fais ou je le fais pas? Voilà, cas de conscience. Et ben, ce qu'on va voir dans le bouddhisme, c'est que ces cas de conscience, on va les avoir continuellement. Plus notre pratique va évoluer, plus on va voir qu'on ne peut pas se fier, prendre les choses au pied de la lettre. L'éthique, par exemple, ben voilà, l'éthique qui consiste à ne pas mentir. Ah oui, mais... oui, pour nuire à quelqu'un, clairement. Mais on va voir que, ben, à un moment donné... On se retrouve, bah, ça va être, si notre aspiration, c'est d'atteindre l'éveil pour réaliser le bien de tous les êtres, bah, pour faire le bien de tous les êtres, il faut bien que parfois on puisse utiliser le mensonge à bon escient. Et là, du coup, sinon on va être coincé. Pour l'éthique bouddhiste, ça va être pareil. On va confronter les enseignements, et puis là on va dire, ah oui, pas mentir, ok, je suis clair avec ça, et puis à un moment donné, ah, c'est bancal. Et oui, on nous parle de compassion, et oui, on nous parle de protéger la vie, protéger les êtres, etc. Donc, comment bah en fait on va utiliser tous les enseignements sur l'éthique et puis se les approprier et de voir que ça chemine, c'est pas figé, ça évolue avec notre maturité, notre développement spirituel, etc. Donc ensuite, on avait vu aussi que les... J'ai fini là-dessus, je sais même plus pourquoi je racontais tout ça, peu importe.
La précieuse existence humaine.
Oui, la précieuse existence humaine, merci. Ah ouais, je suis parti loin. Et j'y arrive. Et la dernière fois, on avait parlé des six mondes de renaissance. Et les six mondes de renaissance... c'est important de pas simplement les voir comme quelque chose. Bon, bah c'est le comment dire, c'est le folklore bouddhisme, c'est des trucs auxquels je crois pas. Enfin, dépasser le stade je crois pas pour un peu se pencher sur cette notion de renaissance. Pourquoi on parle de renaissance et comment en fait on goûte à la renaissance dans notre quotidien. Comment on peut se l'approprier. En quoi cette idée de réincarnation, de renaissance, a à voir avec ce que je vis. Et de voir que lorsqu'on parle de renaissance, il faut rappeler que selon le dharma, notre réalité, finalement, la réalité, c'est notre esprit. C'est comment on vit les choses, c'est comment on perçoit les choses. C'est toujours relatif. Nous façonnons la réalité et elle est façonnée, quelque part, elle est très conditionnée par nos états émotionnels. Et c'est là qu'on va parler de renaissance. En fonction de tel état émotionnel, eh ben, ça va donner une coloration à la réalité. Et on va distinguer six types de coloration dans le samsara. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas réalisé la nature des choses, eh ben, on met en place des stratégies. Et c'est bien qu'on revienne dessus parce que c'est quand même un sujet qui était balèze. Hein. Voilà, on dit le karma, c'est soit ça entretient la saisie égocentrique, soit on va appliquer voilà, des antidotes, des méthodes, d'autres approches pour changer de fonctionnement. Comprendre que finalement, simplement se préoccuper de ses intérêts, ça n'a jamais marché au bout du compte. Voilà, il y a un peu de ça dans le renoncement au samsara, c'est que bah, y a une intelligence derrière le fait, je veux être heureux, bah, je vais me préoccuper de mes propres intérêts, le reste on verra. Dans le bouddhisme, on ne condamne pas l'égoïsme en disant c'est pas bien d'être égoïste. Il y,
n'y a pas de jugement moral derrière ça. Par contre, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas efficace, ça ne marche pas. La stratégie égocentrique ne marche pas, et pour personne, et ça n'a jamais marché, et ça ne marchera jamais. Donc, à un moment donné, si on aspire à être heureux, c'est là-dessus qu'on doit se concentrer, de voir que cette stratégie ne marche pas. Et pourtant, elle est constamment à l'œuvre, à longueur de temps, à longueur de journée. C'est une tendance très forte. C'est-à-dire, même si on reconnaît que ça ne marche pas et qu'on veut vraiment travailler dessus, il va parfois falloir être trop dur avec nous-mêmes, comprendre que ça nécessite un entraînement, un chemin. Le Bouddha, il nous prend là où on est. On ne peut pas être libéré comme ça. Non, il y a des vies et des vies de tendance à la saisie égocentrique qui sont là. Et donc, du coup, c'est presque de l'ordre de l'automatisme, plus que ça. C'est même la tendance la plus profonde. C'est la racine du samsara. Et même, pour la plupart d'entre nous, on ne connaît pas d'autres modes de fonctionnement de l'esprit. On ne connaît que ça. Donc, il va falloir y aller petit à petit. Et observer comment ça fonctionne. Et observer que, quand on parle de renaissance, ce qu'on nous demande d'observer, c'est que dans ce fonctionnement, on a tendance à vouloir se raccrocher sans arrêt à quelque chose. S'identifier à quelque chose comme « oui, j'existe ». C'est un fonctionnement qui fait que même si tout change tout le temps, même si on peut observer profondément que tout dans l'individu change, tout le temps, notre corps il change tout le temps, notre état d'esprit change tout le temps, nos opinions, elles changent, elles sont influencées, elles changent, nos pensées changent, nos émotions changent, etc. Malgré ça, il nous est difficile en fait de vivre cette réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire en épousant le changement, en comprenant qu'on est simplement un processus. Et donc on a cette tendance à vouloir se rassurer, en se raccrochant à quelque chose, en s'identifiant à quelque chose. Ce qu'on appelle la saisie d'un moi. On appelle ça la saisie d'un moi parce qu'on ne remet pas en question le fait qu'on est une personne, ce qu'on remet en question c'est l'idée de vouloir se figer dans une identité. C'est-à-dire une identité qui serait identique à chaque instant, qui n'existe pas, parce que tout change tout le temps, dans l'individu il n'y a rien qui soit figé, ni dans le corps, ni dans l'esprit. Mais comme c'est très anxiogène, on pourrait dire, du point de vue de la saisie égocentrique, on va chercher à se raccrocher à tel type d'expérience. En fait, on va prendre en otage n'importe quelle expérience, ça peut être une pensée, ça peut être une sensation agréable, ça peut pour se réaffirmer en tant que « Ah, oui, j'existe ». Et donc, dans ces six modes de stratégie, de renaissance, en fait, on parle de renaissance parce que ce sont des portes d'entrée dans une perception du monde. C'est comme si on changeait de monde. Et dans une journée, on change de monde en fonction de nos états émotionnels. Le Bouddha va parler donc de six stratégies qui sont l'agression, l'avidité, l'opacité, le désir-attachement, la jalousie, l'orgueil, et il m'en manque un. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit six, c'est ça. Voilà, c'est... Alors, pour grossièrement, ça veut dire que on va essayer avec l'agression. Ça ne marche pas ? Bon, c'est pas grave, on va essayer avec l'opacité. Ça ne marche pas, on va essayer avec l'avidité, le vouloir. Et puis, la jalousie, l'adversité, les complots, les intrigues... Ah, l'orgueil, ça c'est le monde samsarique, et comme ça, on ne peut pas le moi ne peut pas se définir parce qu'il est indéfinissable, il est hors définition. Mais dans cette tendance-là, si on ne marche pas avec quelque chose, on essaie avec autre chose. Ça ne marche pas, et on est sans arrêt dans des tentatives qui seront toujours vouées à l'échec, et c'est ça qu'on appelle le samsara, c'est qu'on tourne en rond, sans jamais pouvoir se définir. Et ces causes de souffrance infinie. Donc c'est bien de comprendre la renaissance comme ça, parce que du coup on peut se l'approprier, voir dans notre quotidien comment non seulement c'est les stratégies qui ne marchent pas, mais en plus ça projette un monde qui va toujours être insatisfaisant d'une certaine manière. Et donc on va parler du monde des enfers pour l'agression. Pas parce que le monde dans lequel on vit est un enfer, mais parce que tout est vu comme agression. On rentre dans un... Quand on fonctionne à travers la colère et la haine en permanence, eh ben on finit par devenir un colérique. Quelqu'un qui a cette tendance-là, eh ben je vais me réfugier dans la colère. Dès qu'il y a un problème qui se présente, ben un jour j'ai vu que ça me proposait une sorte de soulagement, une sorte de solution temporaire, ben je continue à acquiescer à ça encore et encore, et ça devient une tendance très, de plus en plus puissante qui nous fait devenir un colérique. Mais le problème de ça, c'est que karmiquement, voilà, c'est à la fois c'est des conditions, quand on parle de karma, c'est des conditionnements intérieurs et extérieurs. On va faire le vide autour de nous. Un colérique fait le vide autour de soi. Un colérique, dès qu'il y a un petit problème, ça peut devenir un très gros problème. On peut même aller en justice. Enfin voilà, on va nous parler dans l'enseignement de tout un panel de problèmes liés au fait de se complaire dans l'agressivité et la colère. Pas pour que nous, on se dit faut pas se mettre en colère, le Bouddha il a dit faut pas se mettre en colère. Non, c'est pas pour ça. C'est pour que nous, on comprenne que ce fonctionnement-là, il est inefficace à nous rendre heureux. Parce que c'est toujours une stratégie. C'est je pense que je vais pouvoir résoudre mon problème avec ça. Mais en fait, sur le moment, peut-être y avoir un soulagement, mais en fait, c'est une montagne de problèmes derrière. Et en plus, on dit la colère, c'est à la fois le plus facile à désamorcer au niveau de l'esprit, mais c'est en même temps le plus, lourd karmiquement. C'est-à-dire, en un instant, on peut détruire beaucoup de choses positives qu'on a pu bâtir dans nos vies. Parce que, on commet l'irréparable. Donc, on va parler du monde des enfers. Alors, c'est pas... Alors, bien sûr, quand on va lire les textes... on regarde les peintures tibétaines, on voit ces êtres qui bouent dans des chaudrons, assaillis de lances, etc. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais ces images, elles ont du sens. Moi, j'aime bien quand justement on est un peu libéré du carcan de oh, on nous enseigne ça pour nous faire peur, etc. Ça me rappelle mon éducation judéo-chrétienne. Vous voyez, si on est libre de ça, avec une fourche, voilà, c'est ça. En se disant, oh là, il ne faut pas que je me mette en colère, sinon je vais en enfer. Ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Il faut comprendre que l'enfer, on peut savoir de quoi il retourne quand on est sous l'emprise de la colère ou de la haine. Quand on vit ça, on voit que notre esprit, il n'a pas de répit. C'est-à-dire, il est insensible à tout ce qui peut lui plaire d'habitude, d'ordinaire, même une belle balade, un bon plat, un bon entourage. Quand on est sous l'emprise de la haine, rien de tout ça d'important ne peut nous sortir de notre truc. On est assailli de pensées comme des lances. On est piqué de partout, on peut même pas... on n'a même plus la tête hors de l'eau, on peut même pas avoir le plaisir d'être dans l'instant présent parce que tout de suite, ça revient, etc. Voilà, donc ça parle. Et c'est pour ça qu'on parle d'un monde de renaissance. Et ensuite, après, dans le dharma, on va parler d'effet, le plein effet du karma. Quand vraiment, il y a des actes, en fait, qui font que... si on se complaît encore dans ce mode de fonctionnement, on peut renaître en enfer, c'est-à-dire pas en tant qu'être humain qui vit l'enfer, mais vraiment dans un état d'esprit où tout sera perçu comme paranoïa constante. Et peut-être qu'il y a des êtres humains qui vivent ça. Ce qu'on peut voir peut-être dans des hôpitaux, personnes qui vont se taper la tête contre les murs. Alors, on ne sait pas ce qu'elles vivent, mais on se dit, mais qu'est-ce que fait leur esprit, quoi ? Il n'y a pas de répit. Voilà. Donc ensuite, on avait parlé de le monde des esprits avides. L'avidité aussi renvoie à un autre monde, qui est le fait de sans arrêt ne pas réussir à être comblé. Avoir le sentiment qu'on manque de quelque chose. Et ça dépend pas du fait d'être riche ou pas, en fait. On voit qu'il y a des êtres qui pourraient avoir tout, qui ont tout, et en fait qui ont sans arrêt le sentiment de manquer de tout. Et à contrario, il y a des gens qui ont rien, et en fait on a l'impression que le monde leur appartient. Ils sont toujours contents, toujours souriants. Donc ça parle d'un état d'esprit. Le monde des animaux. Donc c'est le fait de se réfugier dans l'opacité. C'est une stratégie pour solutionner mes problèmes. Eh ben, Je fais la politique de l'autruche. Je... Voilà, je procrastine. Je remets à demain. Parce que, oh là, un problème. Oh, on verra demain. Voilà. Et... Ou alors, moi, j'aime bien l'image de celui qui se réfugie dans l'alcool aussi. Enfin, c'est-à-dire, je vais oublier mes problèmes pour... parce que, d'une certaine manière, ça les solutionne. Oui, il y a une intelligence derrière, mais on voit bien que dans ce mode de fonctionnement, au bout d'un moment, là, ça nous rattrape. Et ça rend stupide. C'est pour ça qu'on parle de, du monde de l'opacité, stupide. Et je ne sais pas, alors, je vous avais dit, il ne faut pas le voir, la renaissance animale, comme le fait d'être un chat ou le fait d'être un cochon. Ou, je pense qu'on ne sait pas, c'est pas le monde animal que, tel que nous, on le perçoit. Ce que ça traduit, c'est une opacité. Une forme de stupidité, à force de dormir en fait, à force de ne pas voir, on peut être très facilement manipulé. On n'a plus, une intelligence qui permet de solutionner, de voir clairement les situations. On a trop pris l'habitude de se voiler la face, donc on ne voit pas clairement, et ça nous met dans des situations très, très dures. Et beaucoup d'animaux, quand on parle de renaissance animale, on voit que la souffrance animale elle est énorme dans ce monde. Là, dernièrement, j'ai regardé un documentaire sur Arte qui s'appelait L'usine des animaux en me disant bon, j'en ai vu pas mal, est-ce que j'en regarde un autre, etc. Mais j'étais curieux parce que je me suis dit tiens, Arte. Il parle de ça, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui les médias sur voilà, les chaînes nationales, qu'est-ce qu'elles disent, comment ils en parlent. Et... Ah ben, j'ai pas regretté. et c'était intéressant parce que le documentaire, il commençait d'emblée en disant « Nous n'allons pas vous montrer... » Enfin, si, quand même, il y avait la petite ligne âme sensible s'abstenir, déjà, en début de programme. Bon, ok. Mais après, ça commençait en disant nous n'allons pas vous montrer d'images choquantes. Mmh. Voilà. Mais on va quand même vous en parler. Mmh. Et donc, du coup, ils interviewaient des gens. Et effectivement, il n'y avait aucune image visuelle de ça. Tout était dans le suggéré, tout était dans les témoignages, etc. Et plus je le regardais, plusieurs fois je me suis dit, en fait, je n'ai jamais vu un film aussi horrible. Vraiment. Vraiment, je me suis accroché. Et pourtant, il n'y avait pas d'image, hein, mais je crois que pourtant, j'ai vu des films d'épouvante, j'ai vu des films d'horreur, des films de serial killer, etc. Mais là, honnêtement, c'était à une échelle. Enfin, voilà, on nous faisait prendre conscience de la souffrance du monde animal. À une échelle démentielle, quoi, du fait bah, de l'élevage intensif, etc. Qu'est-ce que ça pouvait entraîner ? Waouh ! Non, la souffrance animale, elle est tout autour de nous, et c'est rien. Enfin, je veux dire, ce qu'on peut vivre en tant qu'humain, je pense que c'est rien à côté de ce que vivent certains animaux, etc. Selon le Dharma, qu'est-ce qui fait renaître dans le monde animal ? C'est le karma. Voilà, si on se pose la question, bah, qu'est-ce qui fait que moi j'ai une vie avec plein d'avantages, etc. Pourquoi l'autre, ça, pourquoi les animaux, etc. Point de vue du bouddhisme, c'est le karma. Ça va même loin. Il hein, y a des. Non, bah, je vais continuer, sinon je parce que précieuse existence humaine. Le monde humain est conditionné par l'attachement. Le désir attachement, avec ses points positifs et ses points négatifs. Le point positif, c'est le désir d'être en lien. Qui fait qu'on est des animaux sociaux, il y a quelque chose, voilà, désir d'être en lien avec l'autre, qui est, de ce point de vue-là, très positif. Mais l'attachement aussi, c'est tout ce qui nous conditionne en tant qu'humain et qui nous ligote dans le samsara parce qu'on a besoin de, on est très attaché à notre situation, nos biens, nos environnements, voilà, toutes ces choses qui représentent notre sécurité, notre confort. On a du mal en fait à ouvrir ça. On a du mal à laisser les choses être. Non, il y a quelque chose de... Voilà. Pourvu qu'il n'arrive rien, pourvu que tout se passe bien, pourvu que ça dure, ça c'est l'attachement. Et ensuite, le monde de la jalousie. Le monde de la jalousie, c'est la porte d'entrée quand notre esprit n'arrive pas à se réjouir du bonheur de l'autre. C'est un mode de fonctionnement qui fait que quand l'autre est heureux, bah, au lieu de se réjouir pour lui, ça a tendance à nous plomber. Puis au contraire, quand l'autre est malheureux, je me sens mieux. Parce que je suis dans un système de comparaison. Je vais bien si je me sens mieux que les autres. Et donc, c'est le monde des intrigues. C'est le monde de l'adversité, des complots. C'est un monde qui est très intelligent, un monde très puissant, mais qui est sans arrêt dans la lutte, le combat. Alors, les Cubains mesquins, hein, c'est pas forcément... Mais c'est des petites phrases assassines par-ci, par-là, pour voilà, passer avant l'autre, etc. On se fait passer pour un ami, mais en fait, on n'en est pas un. Vous voyez, parce que le jaloux ne peut pas avoir d'amis. Il ne peut pas vraiment être un ami. Parce qu'un ami, il se réjouit du bonheur de son ami. Alors que le jaloux, il prétend être un ami, mais il ne peut pas. Et c'est un monde qui est... c'est de la souffrance non-stop. Vraiment, souffrance de la jalousie, c'est extrêmement douloureux et puis c'est source de plein de souffrances dans ce monde. Et enfin, le monde de l'orgueil. L'orgueil au sens autosatisfaction. On représente, voilà, l'orgueil, c'est, on parle du monde des dieux parce que du fait d'un karma très positif, on jouit d'une existence extrêmement plaisante, tellement plaisante qu'on en devient indifférent et qu'on ne va pas chercher plus loin. On n'a pas déraciné la racine du problème, parce qu'il y a toujours la conception, on va dire, d'un moi, d'une identité très solide. Alors, c'est moi, et j'ai ça parce que je le mérite, parce que je suis supérieur. Et donc on rentre dans une sorte de complaisance. Au plaisir, à la satisfaction, qui fait que ça le rend indifférent et qui fait qu'on ne peut pas voir plus loin. Et comme on ne peut pas voir plus loin, bah, au bout d'un moment, comme le karma positif s'épuise, le monde des dieux disparaît et on tombe de haut. C'est-à-dire on tombe démuni parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, quoi. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment... on peut s'approprier ces mondes de renaissance dans notre quotidien, de voir que quand on est dans un état émotionnel particulier, eh ben on change de perception. Comme quand on est, moi j'aime bien, on est amoureux, alors là, super, la vie est belle, on a envie d'embrasser tout le monde, on se l'en léger. Et puis tout d'un coup, bonjour la jalousie, ça débarque, et tout d'un coup, ça... Mais vraiment, en peu de temps, notre perception change radicalement. Tiens, bah finalement, c'est pas si bien, enfin, elle est pas si bien, puis elle est pas, enfin, etc., etc. Et donc, voilà. Et pour se sortir de ça, donc déjà, il faut reconnaître, il faut en avoir marre. D'en avoir marre. Il faut voir que toutes ces stratégies, bah, au bout d'un moment, quel que soit le monde dans lequel on renaît, c'est pas satisfaisant. Ça n'a pas le pouvoir de nous combler. Et du coup, on va changer notre fusil d'épaule. Et puis, du coup, c'est ça qui va permettre, ce renoncement va permettre d'écouter le dharma avec l'esprit ouvert. On va pouvoir vraiment comprendre pleinement le dharma dans cet état d'esprit. S'il n'y a pas le renoncement, bah quelque part, oui, ok. Non, pas, on ne va pas voir où le dharma nous emmène. Et donc, quand on parle des quatre idées fondamentales, on parle du karma, je viens d'en parler, l'impermanence, on parle du caractère défectueux du samsara, c'est-à-dire ces mondes de renaissance, bah, ils ne sont jamais satisfaisants, et on parle de la précieuse existence humaine. Et souvent, on en parle en premier parce que l'idée... c'est de voir à quel point on est fortuné dans cette vie. Si on a... l'idée c'est que on a tendance beaucoup à focaliser sur ce qui ne va pas, au lieu de focaliser sur ce qui va. On a vraiment cette, cette tendance très très forte qui fait que bah, si tout va bien, c'est normal. Voilà. On est en bonne santé, on a mal nulle part, bah ouais, bah, c'est normal, c'est banal. Et ça, c'est une erreur de perception, de voir les choses comme ça. Quand les choses vont bien, bah, on considère que c'est normal et que donc bah, on n'y pense pas. Et on ne pense même pas à se réjouir de ça. Alors que quand il y a un petit caillou dans la chaussure, bah, tout de suite, il va y avoir 100 trucs qui vont bien, bah, il y a un truc qui va bien, c'est mon portal et la batterie ne marche plus. Mais voilà, on peut en faire des caisses hein, pour des petits trucs comme ça. Alors que quand il y a des trucs, mais super, mais on trouve ça tout à fait normal. Il y a une histoire comme ça, c'est un roi qui demande à son ménestrel, un roi qui justement, il est blasé, et tendance à ronchonner tout le temps, donc il n'y a rien qui le divertit, donc il fait appel à plusieurs ménestrels, et puis un jour, il y en a un qui se pointe, et puis il dit, bah, ménestrel, amuse-nous, moi, et... C'est ça qu'on dit, un ménestrel, ouais, c'est ça. Ah, ça. C'est quoi le fou du roi? On appelle ça... C'est pas pareil. C'est celui qui amuse le roi. Le bouffon. Un bouffon, voilà. Donc il demande au bouffon... Ouais, là je m'écoute parler. Amuse-nous, moi et mon entourage. Et raconte-nous une blague. Alors le bouffon raconte une blague, et puis voilà, ça fait rire tout le monde. Une autre. Et donc il raconte une deuxième fois la même blague. Et là, il n'y a plus qu'un quart de la des personnes qui rient. Bon, une autre. Et là, il raconte une troisième fois la même blague. Et là, il n'y a plus personne qui rit. Et donc le roi lui dit, mais pourquoi tu racontes trois fois la même blague? Une fois, je suis OK, deux fois, ça va, mais trois fois... Et Mestrel lui répond, mais c'est marrant parce que vous, quand vous ressassez vos mauvaises pensées, les trucs qui ne vous ont pas plu, etc., bah, chaque fois que vous le ressassez, vous êtes triste. Alors j'ai pensé que bah, je pouvais faire l'inverse et vous faire... Vous voyez l'idée, bon, il faut que je bosse la chute. Mais voilà l'idée, de voir qu'on est capable de pleurer encore et encore pour ces trucs qu'on ressasse encore et encore. Alors que les trucs bien, bah hop, c'est normal, ça passe. Vite fait, donc, la précieuse existence humaine, c'est un exercice où voilà, on nous donne des pistes, mais on nous dit de, en fait, en gros, méditer sur, réfléchir à la chance qu'on a, jusqu'à ce qu'il y ait une expérience qui naît dans l'esprit. Alors, dans les textes, on donne des pistes pour réfléchir à ça, mais ce qui est important, c'est que nous, quand on lit ça, on arrive vraiment à se l'approprier et à réfléchir là-dessus. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence à dire, mais ouais, j'ai une chance de dingue. Parce que tout ce temps que nous sommes là, ici, si, rien que si on est là, ce soir, si on a le loisir, quelque part, de... même d'écouter voilà, des enseignements, des, c'est qu'on a des conditions vraiment exceptionnelles. On dit, hein, c'est extrêmement rare d'être humain, mais en plus d'avoir la précieuse existence humaine, c'est-à-dire un humain qui a des conditions pour travailler sur son esprit, pour aller voir un petit peu au-delà, se poser la question de qu'est-ce qui cause la souffrance et comment je peux m'en sortir, c'est qu'on a un karma super positif. Quand je dis super positif, on n'a pas idée, en fait, de la masse de karma positif pour avoir ce genre de résultat. Et il y a quelqu'un qui me faisait la réflexion là, ce week-end en me disant, mais c'est dingue parce que nous, dans nos vies, on vit presque, on est plus puissant que des rois à une certaine époque. Dans le sens où, il faisait aussi le... Dans le sens où, en fait, on a accès à tout. On a accès, par exemple, quand on voit les rois avec leurs banquets, etc. Mais on s'imagine que c'était comme ça tous les jours, mais pas du tout. À l'époque, quand il y avait ce genre de banquet, on faisait venir des plats de partout, etc. Qu'on invitait des convives, mais c'était une fois tous les 36, faut pas croire. Moi, j'ai Uber. Je peux manger italien, chinois, McDo. Enfin, c'est incroyable, en fait, de ce point de vue-là, le karma qu'on a. C'est-à-dire, on peut manger, tout ça vient à nous. Et pour que ça vienne à nous, il faut une énergie considérable. C'est-à-dire, ça ne vient pas tout seul. Ça vient parce qu'on a de l'énergie. On a pétrole, électricité, etc. C'est incroyable la masse d'énergie que consomme chaque individu, par exemple en France, ne serait-ce qu'en France. Ça revient à voir, peut-être, si on comparait les pharaons, avoir 600 esclaves chacun. Comme ça que c'était présenté, bon, j'ai pas... mais on ne s'en rend pas compte. On vit, on a une vie de roi, de ce point de vue-là. L'histoire, c'est puissance phénoménale, mais rien que le fait de... Voilà, de nous, on ne se pose pas la question de où est-ce qu'on va dormir ce soir. C'est quelque chose qui est réglé. On va en plus dormir dans un endroit chauffé, qui en plus est chauffé toute l'année. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants, parce que c'est quelque chose... Ok, c'est réglé. Non, tout est impermanent, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas notre préoccupation principale. Alors qu'il y a certaines personnes, voilà, à quelques centaines, milliers de kilomètres, même autour de nous, qui n'ont pas ça. C'est-à-dire, la seule préoccupation, c'est où je vais dormir ce soir, qu'est-ce que je vais donner à manger à nos enfants, et au-delà de ça, il n'y a pas de place pour autre chose. Ça prend toute l'énergie. Si on a ça, c'est vraiment pas banal. C'est même extraordinaire. Le fait qu'on n'ait pas vécu la guerre, enfin si, on la vit, d'une certaine manière. Mais... elle n'est pas à notre porte, on la vit à travers les médias, etc. Aujourd'hui, voilà, on est une génération qui n'a pas vécu la guerre, c'est extraordinaire. Voilà, il y a plein de choses comme ça, donc on peut passer des basiques, voilà, j'ai de quoi me loger, endroit chauffé, j'ai de quoi manger, j'ai un entourage, je peux pratiquer n'importe quelle religion, n'importe quelle spiritualité librement. Ouais, y a plein de choses dont on peut se réjouir.
Moi, je pense aux femmes qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau en Afrique, alors que nous, on tourne le robinet.
Mais on est des dieux à côté. Ouais. Enfin, c'est une vie de dieu, quoi. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Et ça ne vient pas de nulle part. Il faut penser à tout ce que ça implique d'avoir de l'eau courante, toute l'énergie que ça implique. Donc, probablement, si on a ce genre de circonstances dans nos vies, c'est probablement lié à un karma très, très, très positif. Et donc, il y a de quoi se réjouir. Donc, après, chacun s'approprie cette idée et vraiment réfléchit. La maturité me dit, faites des listes jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentiez que, oui, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, mais il y a tout ça qui va bien et j'ai énormément de chance. Et ça serait dommage de gaspiller cette chance, bah, quelque part, en passant son temps à se plaindre. Ça serait dommage, parce que qui dit karma positif, bah, ça dépend ce qu'on en fait pour qu'il soit positif. Effectivement, si on a tout, mais qu'on passe son temps à courir après quelque chose de mieux, quelque chose de plus, encore et encore, bah, ce karma positif, on le gaspille. Et il devient négatif. Pareil, si on n'arrive pas à prendre conscience de la chance qu'on a, si ce n'est pas une habitude qu'on arrive à ancrer dans notre esprit, bah, on passe à côté de ce karma positif. Et donc, bah, ça entraîne des conséquences négatives. Voilà, donc la précieuse existence humaine, voilà, vise à nous faire nous réjouir de notre condition, et puis comment en profiter du coup. Comment vraiment, tant qu'à être dans le samsara, autant se, comment dire, là où il y a de quoi se réjouir, autant s'en réjouir. Et ne pas gaspiller, hein, ne pas gaspiller ce potentiel.
C'est pas exactement dans le sujet, mais ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les 6 mondes de réincarnation, correspondant à des traits de caractère ou des choix stratégiques. Donc la jalousie, par exemple, la colère. Il me semble que ces traits-là peuvent être tournés en positif. Donc, par exemple, la colère pour recherche de la justice, ou la jalousie, connaissance de ce que l'autre ressent. Quels sont les autres revers de médaille pour les autres mondes, en fait. Je ne connais pas les autres.
Alors, pour la colère, on médite sur l'amour. Pour la jalousie, on médite sur la réjouissance. Donc, on fait l'inverse, quoi. Au lieu de... On se réjouit du bonheur de l'autre. On s'entraîne à se réjouir du bonheur de l'autre. À chaque poison correspond à un potentiel. C'est-à-dire, si on est à une tendance à la jalousie, on ne va pas parler de trait de caractère dans le bouddhisme, parce que trait de caractère, ça fiche des choses. Mais il y a on ne peut pas nier qu'il y a des tendances très profondes. Hein. Voilà, on a un type avec des tendances très profondes, et ça peut être, par exemple, le trait à la jalousie. Si on a cette tendance-là, c'est qu'on a un potentiel très fort de se réjouir du bonheur des autres. C'est le revers de la médaille. Il faut juste trouver comment switcher. Mais quelqu'un, en fait, qui a cette tendance à la jalousie, c'est quelqu'un qui peut être, au contraire, très réceptif à qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est source de bonheur pour autrui. C'est quelqu'un qui est capable, en fait, de voir les aspects positifs des gens. Simplement, au lieu de s'en réjouir, la jalousie, mais ça se transforme. L'opacité, tendance à la persévérance. On va, comment dire, pour combattre l'opacité, on va s'entraîner à le contraire de la procrastination, quoi. Ouais, quand on procrastine, le contraire, c'est on s'entraîne à faire les choses à faire maintenant, quoi. Ouais. Pour l'avidité, on pratique la générosité. C'est assez, assez facile. Il suffit de. Souvent, il s'agit de faire l'inverse. Quand on est sous l'emprise de l'orgueil, on va réfléchir sur l'humilité. On va réfléchir sur la nature interdépendante des choses, de voir qu'on n'est pas des, on s'est pas fait soi-même. On dépend de causes, des conditions, des autres, etc. Donc, on va développer la gratitude pour contrecarrer ça. Voilà.
J'avais une question. C'est par rapport au karma. Mais quelqu'un qui est dérangé pour une raison X, Y dans son cerveau, j'avais entendu une histoire d'une âme qui s'est fait opérer d'une tumeur dans le cerveau et ça a atteint la partie de l'empathie. Et donc, du coup, après, elle n'avait plus aucune empathie pour les gens, elle était devenue méchante. Mais ce n'était pas du tout dû à des décisions, mais c'était juste parce que, il manquait quelques cellules dans le cerveau. Donc, c'était vraiment physique ou mécanique, ou je ne sais pas comment je peux dire, mais ce n'était pas du tout un choix de ça. Elle ne se rendait pas compte. Et comment ça se passe dans ce cas-là, le karma, pour des personnes comme ça qui ont des déficits cérébraux, je ne sais pas comment je peux dire. Pourquoi pas accumuler le karma, parce que du coup ils sont plus dans la capacité d'accumuler du bon karma, ou c'est un peu, je sais pas comment ça se passe.
C'est pas
figé, le karma, tu vois. Je peux avoir des problèmes, j'ai des problèmes de scission. Ça, il y a pas que le karma, mais il y a aussi du karma. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai eu le karma d'avoir des prothèses qui résout le problème. C'est pas que le karma, mais c'est le karma aussi. Et puis demain, je sais pas. Tu vois ? Mais le karma, c'est pas quelque chose de figé. D'ailleurs, nous, effectivement, à l'échelle de vie, on a l'impression que c'est, cette personne, elle est handicapée à vie. Mais du point de vue du dharma, l'échelle d'une vie, c'est rien. D'accord. C'est une étincelle. C'est... Ça passe comme un rêve. Et c'est ce qu'on nous dit au moment de... le jour où on devra partir, au moment de notre mort, ce qu'on va voir, on va prendre conscience que tout ce qu'on a vécu, positif, négatif, etc., déjà c'est passé vite, et ça va nous sembler comme un rêve, parce qu'on arrive à un instant où tout ça, il faut dire au revoir. Un peu comme quand on rêve, on se réveille, et on rentre dans la vie biologique. On a pu gagner au loto pendant notre rêve, ou alors on a pu vivre un incendie pendant notre rêve, mais tout ça c'est terminé. Et ça passe très très vite. Même si quand on est, on a l'impression, oui, toute ma vie. Mais dans le bouddhisme, on envisage pas que la mort est une fin en soi, on envisage pas que l'esprit un début, une fin. Donc, une vie, c'est rien. Et donc, comment on explique le karma? C'est juste... C'est impossible, en fait, de savoir quelles sont les causes et les conditions qui ont fait que le résultat, c'est ça. Personne ne peut savoir. Même un Bouddha, enfin, en tout cas, au niveau ordinaire, il est impossible non seulement de comprendre vraiment notre karma, alors encore moins celui des autres. Et ça, vraiment, tous les maîtres sont à cheval là-dessus. Ne vous amusez pas à essayer de comprendre pourquoi telle personne, c'est quoi son karma, pourquoi elle a ci, pourquoi elle a ça, pourquoi elle a un handicap, pourquoi elle se comporte. Ça, c'est foutu. C'est foutu d'avance, et puis c'est que de la confusion en plus. Seule chose sur laquelle on peut essayer au moins d'avoir une clarté, c'est notre karma, comprendre grossièrement, parce que tant qu'on est un être ordinaire, on dit les êtres ordinaires n'ont pas la capacité de comprendre tous les tenants et les aboutissants qui font que on vit ça, on a ce résultat-là. Par contre, le Bouddha, il nous dit comment on vit avec, comment on peut réagir avec ça, et comment on peut purifier du karma, qui n'est pas encore, qui est encore latent, comment on peut purifier, et puis même le transformer en karma positif, qui va nous rapprocher de l'éveil. Mais les tenants, les aboutissants... Bon, alors après, il y a des textes, tu lis les lames rimes, par exemple, le précieux ornement de la libération de Gampopa, on va t'expliquer le plein effet d'un karma, par exemple la renaissance en enfer, la renaissance dans le monde animal. Mais ensuite, tous les effets, on va dire, conformes à la cause. Par exemple, le fait d'être pauvre. Enfin, pas forcément être pauvre au sens matériel du terme, être pauvre, c'est-à-dire le sentiment de pauvreté, l'état d'esprit de pauvreté. Certains textes, moi j'ai lu le fait de voler, prendre ce qui ne nous a pas été donné, soit par force, soit de manière dissimulée. Le plein effet de ça nous fait renaître, par exemple, dans le monde animal, ou dans le monde des esprits avides. Selon. Et après, tu vas voir des effets conformes à la cause, c'est-à-dire dans cette vie, tu renais humain, mais avec une tendance à perdre tout, même tes clés. C'est-à-dire, tu te fais voler, parfois tu perds tout parce qu'on te vole, voilà, ça c'est. Ou alors tu perds tout parce que. Il y a des gens comme ça, sans arrêt en train de perdre leur téléphone, leur clé, c'est non-stop. C'est quel que soit. En fait, point de vue karmique, on dit c'est peut-être ça. C'est peut-être lié à le résultat karmique d'avoir volé dans une vie précédente, parce que souvent dans les vies précédentes, qui entraîne ce genre de choses. Mais on ne va pas s'amuser en fait à dire ah tiens, lui il a perdu ses clés, c'est donc qu'il a été volé dans. Non, ça nous fait réfléchir nous, mais il ne faut surtout pas s'amuser à le faire pour l'autre.
Par rapport à cette dame-là, c'est quelle qui par la peine, parce que du coup, elle est obligée d'accumuler un mauvais karma, alors qu'elle n'est pas forcément responsable. Enfin, c'est ça. Hein.
Elle n'est pas responsable là, mais tu ne sais pas avant. Ouais. C'est pour ça. C'est ce que dit...
Ouais, c'est toujours avec un... Comment dire, il y a un différé dans le karma. Il y a souvent un différé. Parce que c'est le fait d'accomplir. Pour avoir une vie comme la précieuse existence humaine, on dit c'est pas. Alors après, ça dépend. On dit faut pas négliger le moindre des petits actes. Parce que. Et d'ailleurs, on va voir que c'est comme ça qu'on purifie beaucoup les empreintes karmiques. C'est qu'on nous dit ne négligez pas le moindre acte positif. Parce qu'en fait, chaque acte positif, du fait de la force du karma, en fait déraciner des kalpas de vie d'actes négatifs. Ça marche aussi dans le sens, faut faire gaffe. Et parfois les petits actes négatifs peuvent détruire. Mais moi j'aime bien dans ces choses qu'il y a de l'espoir quoi. C'est des petites choses, des petites graines qu'on plante, on ne sait pas les résultats et puis ça peut avoir des résultats disproportionnés. Et donc, dans le bouddhisme, on va beaucoup purifier le karma négatif par le fait de renoncer. Rien que dans l'esprit, en fait, si on renonce aux actes négatifs, ça peut purifier beaucoup de choses, même si on accomplit des actes très négatifs. n'y a pas un acte aussi noir soit-il qui ne peut pas être purifié dans le dharma.
Est-ce que j'ai le temps de vous en parler de ça?
Non. Voilà ça la prochaine fois. Si? Voilà, je finis là-dessus. Il n'y a rien qui ne puisse pas être purifié. Dans le dharma, on considère que on peut faire remise à zéro quand on veut. Quand je dis quand on veut, quand on connaît la nature de l'esprit, oui, on peut le faire quand on veut. Mais c'est ça le but, hein. C'est, je veux dire, si on, par la méditation, on comprend qu'en fait, il n'y a pas un moi avec un bagage. Le karma n'est pas quelque chose, c'est une idée. C'est une idée, et l'idée n'a pas de support. Si on comprend ça, on comprend que pour purifier son karma, ce qui suffit, c'est de regretter. Alors, on parle des quatre forces pour purifier n'importe quel karma. Quatre forces, c'est la force du regret. Je regrette. Je me repens de cet acte. Force du regret, c'est très puissant. Si c'est vraiment un regret sincère, ça veut dire je regrette ça. Première force. La deuxième, c'est la force de l'antidote. Force de l'antidote, c'est je regrette, mais plus jamais j'accomplirai ça. Très puissant parce que ça veut dire qu'on n'est plus cette personne-là qui accomplit ça, on devient cette personne qui décide de ne plus accomplir ça. Si c'est profond, etc. Du point de vue de l'esprit, ça suffit à purifier tout le karma. Parce que le karma, ce n'est pas un stock, ce n'est pas quelque chose, un bagage qu'on a apporté sur son dos, etc. Donc ensuite, il va y avoir la force de la vigilance. Voilà. Donc ça, ce n'était pas la force de l'antidote, c'est la force du renoncement. Je dis non, je ne peux plus accomplir ça. Ensuite, on va parler de la force de l'antidote, c'est-à-dire planter, contrecarrer par des actions vertueuses. Maintenant, j'arrête les actes négatifs, je me consacre que à ce qui est vertueux. Et enfin, la force du refuge. Refuge dans le Bouddha, Dharma Sangha, l'aspiration à l'éveil, la méthode, et puis l'entourage qui va me permettre d'accomplir mon projet. De ce point de vue-là, n'importe quel acte peut être purifié à partir du moment où il est sincère. Voilà, le Bouddha, comment dire, parmi ses disciples, il y avait des serial killers. Hein. Oui. Même pas quand on parle d'Angulimala, ça voulait dire collier de doigts. Angulimala, c'était un psychopathe, un serial killer qui se faisait un collier avec les doigts de ses victimes. Et il en voulait 100. Arrivé à 99, il rencontre le Bouddha. Et puis il s'avance, j'ai mon centième. Et en fait, il y a quelque chose dans l'attitude du Bouddha qui le désarme complètement, qui fait qu'il est complètement inspiré par sa présence. Le Bouddha témoigne d'absolument aucune peur et il va finir par suivre ses enseignements et devient un arhat. Un arhat, donc totalement libéré de la souffrance. Ce n'est pas encore l'éveil, mais c'est le stade où il n'est plus dans le samsara déjà. Il y en a quatre qui sont très célèbres dans les disciples du Bouddha qui parlent d'un karma de criminel, quoi. Et qui finalement vont totalement se purifier jusqu'à la réalisation. Et c'est pour dire que tout est purifiable, mais en fait, ça dépend surtout de nous. C'est est-ce qu'on s'autorise, en fait, vraiment à... Et c'est pas forcément facile, hein. Il y a par exemple des associations d'ex-prisonniers, des gens qui ont été des détenus, qui ont purgé leur peine, donc du point de vue de la société, ça y est, c'est... Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont toujours identifiés à leur passé de criminel. Et puis bon, la société n'aide pas forcément à ça, mais quelque part, ils ont purgé leur peine, mais ils arrivent. Et ils ont besoin... donc il y a des associations qui sont là pour... justement, les aider à leur... C'est bon, maintenant, tu peux considérer comme un citoyen normal. C'est effacé du point de vue de la dette sociale. C'est fait. Encore faut-il se pardonner. Encore faut-il regretter et se dire, mais plus jamais, je suis quelqu'un de nouveau. Voilà.
En fait, ne plus s'identifier de cette manière-là.
C'est ça. Dire. Oui, oui. C'est pour ça que la force du... Il faut qu'il y ait toutes ces forces-là. Oui, oui. Et dans ces forces-là, le regret et puis la volonté de dire non. Oui. plus jamais.
Le fait qu'on change aussi, du coup, c'est le changement aussi.
Et les vœux, ça sert à ça, hein, les vœux de moine. Pourquoi on prend des vœux de moine, ou pourquoi on prend des vœux de laïc, ou pourquoi on prend des engagements, c'est pas parce qu'on est infaillible. Parce que si on était infaillible, il n'y aurait pas besoin de prendre les vœux. Mais quand on a pris des engagements, qu'on soit moine, qu'on soit laïque, etc., et ben, à un moment donné, on chute. Mais le fait d'avoir pris un vœu, quelque part, on se prend en flagrant délit, et ça cible. Bon, ok, j'ai encore chuté, je restaure. Parce que voilà, il y a plein de pratiques de... On appelle les pratiques de purification, mais c'est juste en fait de pratiques où on se dévoile, on confesse vis-à-vis de nous-mêmes. Et du coup, je repars. J'ai vu, là, il y a eu chute. Je l'ai remarqué parce que j'ai pris un vœu. Prendre un vœu, ça permet de remarquer, d'autant plus quand il y a des chutes. Je répare et je continue comme ça. C'est pas fait pour être infaillible. Enfin, je veux dire, on ne prend pas des vœux parce qu'on est infaillible. Sinon, il n'y aurait pas d'utilité à ça.
Je ne sais pas si j'ai le temps de poser encore une question. Tu as parlé des 10 actes non vertueux.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler des 10 actes vertueux?
C'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, c'est ne pas tuer. Mais plus que ça, protéger la vie. Tu vois? C'est on passe au lieu de mentir, parler avec sincérité, honnêtement, la vérité, etc. Tu prends l'opposé, quoi.
Finalement, tout ça, ça ressemble quand même un peu aux 10 commandements. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu semblables, avec religion catholique, je parle pas, non, oui, les 10 commandements, c'est les catholiques, mais je dis que dans le bouddhisme, il y a plein de choses qui se
réfèrent. Je pense que dans toutes les traditions, quand on parle de l'éthique, il y a quelque chose du bon sens, même dans les lois sociales,
oui.
Ne pas voler, ne pas tuer, c'est basique pour vivre ensemble, quoi. Donc il y a beaucoup de bon sens. La différence avec les 10 commandements, c'est que derrière les 10 commandements, ça peut être pris comme une sorte de dogme.
Oui, voilà,
Dieu a dit, tu ne tueras point, sinon... Voilà, ça peut être pris comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien clarifier dans Louis, surtout pas le voir comme ça. Plus je comprends le karma et comment ça marche, plus ça va me permettre d'être clair par rapport à ma démarche d'être heureux. Et de ne pas rencontrer ce que, justement, je ne veux pas, quoi. Voilà, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puisse-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Merci à toi.